Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce balado de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Je suis François Audet, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, ainsi que directeur général donc de l'OCA, de l'Observatoire. Ce balado se veut un peu spécial parce qu'évidemment, on est en situation de pandémie et justement, on va s'intéresser aujourd'hui au contexte très particulier des réfugiés, mais aussi particulièrement, en fait, des populations dans les camps ou dans certains camps de réfugiés. Donc, on va essayer d'avoir un peu un éclairage sur l'état des lieux. Et on aura donc la conversation avec mon collègue de l'Observatoire et de l'UQAM également, Monsieur Olivier Hervisset, directeur scientifique de l'Observatoire. Alors, bonjour Olivier.
Bonjour François.
Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très apprécié. Alors, écoute, sans plus tarder, en fait, je crois qu'on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il en est, où en est l'état des lieux globalement de l'épidémie dans les camps de réfugiés actuellement?
Ouais, en fait, pour l'instant, il y a peu de données disponibles sur la propagation du virus dans les communautés de réfugiés. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il y a au moins 134 pays d'accueil qui ont confirmé une transmission communautaire. Donc ça, c'est des pays qui accueillent des réfugiés, certains quelques milliers, d'autres plusieurs millions. Mais dans ces pays-là, 134, donc c'est un nombre assez considérable, on confirme une transmission communautaire, donc un risque pour les populations plus vulnérables que sont les populations réfugiées. Pour l'instant, on a plusieurs cas qui ont été confirmés dans quelques camps. C'est entre autre le cas à Cox's Bazar, qui est un des plus grands camps au monde, où il y a des cas déjà depuis presque 2 mois. C'est la même chose dans les camps au Malawi, au Kenya, mais aussi chez les réfugiés palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.
Si on regarde un petit peu le portrait au pourtour de la Syrie, hein, on sait que la Syrie a généré un nombre important de réfugiés ces dernières années. Est-ce que c'est aussi le cas pour les populations réfugiées au pourtour de la Syrie?
Oui, absolument. Il y a des cas qui ont été confirmés en Turquie, en Jordanie, mais aussi parmi les réfugiés urbains et qui sont un peu plus dispersés au Liban, entre autres. Ça touche aussi les populations réfugiées syriennes.
Donc, au même titre que l'épidémie est répandue maintenant partout sur la planète, bien évidemment, les populations de réfugiés, comme tu dis, n'y échappent pas. Alors, ils sont aussi touchés. Mais évidemment, les populations de réfugiés, on vit dans des contextes particuliers, voire même tristement uniques. Quels sont les risques spécifiques ou les risques majeurs qui sont susceptibles de générer peut-être plus de vulnérabilité pour cette population-là dans le contexte des cas en particulier?
Ouais, ben effectivement, ces populations qui, tu l'as mentionné, qui sont particulièrement vulnérables. Évidemment, la première chose qui nous vient en tête parmi les risques, c'est la densité. Dans beaucoup de camps de réfugiés dans le monde, il y a une densité extrême. Je lisais récemment certains parallèles qui avaient été établis, puis qui peuvent peut-être donner une référence aux gens qui est intéressante. Celui du bateau de croisière, pardon, Diamond Princess, qui est tristement célèbre là, pour avoir à abriter plusieurs cas pendant plusieurs semaines. Ben, si on fait la comparaison entre la densité de ce bateau-là et de certains camps de réfugiés dans le monde, c'est quand même assez intéressant. On sait que pour le bateau, on parlait d'environ 24 personnes pour 1000 mètres carrés. Et si on compare avec le camp de Cox's Bazar au Bangladesh qui accueille des réfugiés Rohingyas, mais là, c'est 40 personnes pour 1000 mètres carrés. Puis si on regarde du côté des camps en Grèce, par exemple, qui accueillent les populations qui transitent par la Grèce, le camp de Moria, lui, accueille plus de 200 personnes pour 1000 mètres carrés. La distanciation sociale y est pratiquement impossible. La propagation peut se faire très rapidement. Puis ça met beaucoup de pression aussi sur les systèmes d'hygiène de base, l'accès à l'eau, au savon, la gestion de la nourriture, des déchets qui peuvent aussi accentuer la propagation. Puis évidemment, ça met aussi beaucoup de pression sur les systèmes de soins de santé qui sont souvent assez défaillants et aussi par ailleurs débordés avec beaucoup d'autres problèmes de santé connexes.
compte tenu du type de vulnérabilité, mais en fait du type de menace que le virus peut avoir, notamment, on sait maintenant davantage depuis les derniers mois, en tout cas de la connaissance scientifique. Par exemple, on sait que le virus va s'attaquer de manière beaucoup plus dure aux populations très âgées. Est-ce qu'il y a lieu de croire que les populations de réfugiés dans leur ensemble sont plus ou moins vulnérables par rapport aux pyramides d'âge de personnes dans les camps de réfugiés, par exemple?
Bien, a priori, on pourrait penser que c'est positif de savoir qu'effectivement, les populations réfugiées sont assez jeunes en général. Dans la plupart des cas, les 20 ans et moins représentent près de 50 % des populations de réfugiés. Par contre, souvent, les conditions de santé sont assez faibles, beaucoup plus basses que les autres populations. Puis, on pourrait voir en fait des gens beaucoup plus jeunes affectés gravement par la maladie à coronavirus. C'est entre autres, en fait, on peut tisser des parallèles avec d'autres populations vulnérables dans des milieux urbains aux États-Unis, par exemple, dans certaines banlieues de grandes villes comme New York, où on constatait des taux de mortalité ou des taux de cas graves beaucoup plus élevés chez les populations plus jeunes, donc 50, 40, 30 ans, dans ces tranches d'âge-là, parce que les conditions générales de santé de ces gens-là étaient assez faibles à la base. Donc, oui, on pourrait se rassurer en pensant que les populations sont plus jeunes, mais on sait aussi qu'elles sont plus vulnérables en général.
Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres risques particuliers qui sont susceptibles d'affecter donc la communauté de population réfugiée dans les camps?
Oui, effectivement. Et il y a plusieurs autres risques qui sont collatéraux auxquels on ne pense pas nécessairement. Mais par exemple, on fait état de grandes difficultés économiques depuis les 2 ou 3 derniers mois, en particulier chez les réfugiés syriens. On sait que les réfugiés syriens sont très actifs au sein des différentes économies dans les pays d'accueil où ils sont. Le ralentissement économique que connaît la planète entière présentement affecte particulièrement les populations vulnérables, dont les réfugiés, souvent qui ont des emplois très précaires. Et qui sont garants, en fait, d'une économie assez active. Et donc, dès qu'il y a un ralentissement, ben on perd un revenu. Puis, il y a beaucoup de réfugiés syriens qui comptent sur ces revenus-là pour s'alimenter, mais aussi pour avoir accès à des soins de santé. Donc, ça crée une grande précarité. Il y a aussi, en fait, toutes les autres épidémies, par exemple, surtout en Afrique, avec lesquels les réfugiés sont aux prises, ben la lutte au coronavirus pourrait aussi diluer à tout de moins une partie des ressources en soins de santé consacrées à d'autres épidémies comme le choléra, comme la dengue, qui font aussi plusieurs milliers de morts à chaque année parmi les communautés de réfugiés. Donc ça, c'est à considérer parce que pour certaines régions comme l'Afrique, la COVID-19, c'est une épidémie, c'est une pandémie de plus qui s'additionne aux autres existantes. Il y a d'autres phénomènes aussi qui sont peut-être plus politiques. Souvent, les réfugiés sont pris comme bouc émissaire. On le voit, par exemple, au Kenya, où quand il y a des problèmes d'insécurité, de terrorisme, on associe ces problèmes-là aux populations réfugiées présentes sur le territoire. Mais dans plusieurs régions du monde, les réfugiés sont pris à partie comme bouc émissaire de vecteurs de transmission de la pandémie. Donc ça met aussi les populations en danger. Puis finalement, toutes les frontières qui se sont refermées récemment pour éviter la propagation, mais c'est aussi un facteur en fait qui met davantage les populations en danger parce que s'il y a moins de mobilité, il y a moins d'espace, il y a moins d'espace et moins d'espoir pour trouver refuge lorsque notre vie est menacée par un conflit armé, par exemple.
Mais justement, étant donné ces contextes de cohabitation avec différentes pandémies, épidémies, maladies de toutes sortes, est-ce qu'il y a donc des interventions spécifiques ou des pratiques qu'on peut retenir pour ralentir la propagation, notamment et particulièrement du coronavirus dans ce contexte-là?
Oui, bien, il y en a quelques-unes. Évidemment, c'est des choses qu'on connaît, qu'on voit ici. La première chose qu'il ne faut pas oublier, puis je l'ai mentionné d'entrée de jeu, dans beaucoup de contextes, la distanciation sociale est pratiquement impossible parce que les milieux sont trop denses. Le confinement, c'est pas non plus quelque chose qui peut être nécessairement envisagé chez les populations réfugiées, parce que, bon, pour aller à la distribution alimentaire, pour pouvoir bénéficier de certains services qui sont essentiels à tous les jours pour survivre, ben, on doit sortir, on doit se déplacer. Donc, ces deux stratégies-là qui ont été beaucoup développées et déployées dans le monde ne sont pas nécessairement celles qu'on souhaiterait adopter dans les camps de réfugiés. Par contre, on a vu une augmentation, en fait, de stratégies pour augmenter l'accès à l'eau. On a creusé récemment de plus en plus de puits dans plusieurs camps de réfugiés pour réduire le ratio entre le nombre de réfugiés et le nombre de points d'eau, parce qu'évidemment, l'eau, c'est important pour pouvoir se laver les mains, pour l'hygiène. L'accès au savon aussi, on a développé toutes sortes de stratégies pour mettre des distributeurs de savon qui, on a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité avec des cordes où on activait les distributeurs avec nos pieds, par exemple. C'est aussi que le port du masque a beaucoup été privilégié dans plusieurs camps, justement parce que la distanciation n'est pas possible. Mais encore là, le problème, c'est surtout l'accès à des soins de santé. Dans la pandémie actuelle, c'est surtout ça. On sait que bon, pour l'instant, c'est une maladie qui semble avoir un taux de mortalité qui est quand même relativement bas comparé à d'autres épidémies, par exemple Ebola. Cependant, si on n'a pas accès à des soins de santé efficaces, ben, ça peut s'aggraver énormément. Et là, on peut décéder des suites de la maladie à COVID-19. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de rehausser l'accès aux soins de santé, mais pour ça, ça prend beaucoup de moyens. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a récemment fait un appel à financement pour la situation de la COVID-19 dans les camps de réfugiés. Seulement pour terminer l'année 2020, on parle de près de 800 millions de dollars. Pour l'instant, il y a seulement 33% du financement qui a été reçu pour acheter des masques, rehausser les soins de santé, mais aussi rendre plus accessible l'eau et le savon dans les camps de réfugiés. Donc, il y a encore un manque à gagner important.
Et évidemment, qui est exacerbé par le fait aussi que les pays donateurs sont eux-mêmes aux prises, hein, avec l'épidémie. Et il y a beaucoup de, disons simplement, de protectionnisme. Pour terminer un peu là-dessus, Olivier, un élément qui nous interpelle souvent, c'est la fameuse solution du camp de réfugiés, hein. Donc, on a le camp de réfugiés qui est presque la solution unique et qu'on a mis en place depuis des décennies, hein, qui est un peu la solution pour, je dirais, organiser une population qui a dû ou qui était forcée de quitter une région pour des raisons de sécurité, hein. Et on met donc en place des espaces de confinement comme les camps de réfugiés. Peut-être en terminant, j'aimerais t'entendre sur cet enjeu donc du camp qui est parfois critiqué, parfois peut-être la seule solution aussi. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que le scénario de l'épidémie vient ou ne vient pas changer?
Oui, effectivement, dans les dernières années, cette idée d'encampement a été beaucoup critiquée. C'est une question complexe. L'encampement, c'est un phénomène c'est un peu la poule et l'œuf. Parfois, dans certains contextes de population réfugiée, les gens vont se rassembler en un lieu, en communauté, et le camp va se former autour de ce rassemblement-là. Dans d'autres cas, on va préparer le camp et on va vraiment créer un phénomène d'encampement où on va diriger les gens à l'intérieur d'un camp, puis on va les organiser en fonction de ça. Donc, il y a plusieurs phénomènes. La problématique de l'encampement, c'est la durée. C'est quand le camp devient pérenne, quand au bout de 15, 20, 25, 30 ans, le camp est toujours là, les conditions de vie ont à peu près pas changé. Et les populations sont prises au piège à l'intérieur de ce camp-là. Donc ça, c'est un phénomène qui est problématique. Donc, évidemment, une pandémie comme celle qu'on connaît, ça exacerbe les conditions de vie difficiles et ça les met davantage en lumière que dans les camps que les populations réfugiées vivent. Par contre, dans certains camps, il y a un communautarisme très fort. Ça peut permettre le déploiement de certaines stratégies innovantes. Dans beaucoup de cas, on s'est mis en communauté à fabriquer du savon, à trouver des stratégies pour en fabriquer, à développer une petite économie locale autour de ça, mais aussi à fabriquer des masques. Donc, ça peut donner lieu, en fait, à des exemples très positifs. De l'autre côté, les réfugiés urbains, qui sont beaucoup plus dissipés dans certaines régions du monde, sont souvent plus difficiles d'accès, ne serait-ce que pour leur offrir des soins de santé, par exemple, du soutien financier ou alimentaire. Et ça aussi, ça peut causer certaines problématiques parce que l'accessibilité aux populations, évidemment, c'est un enjeu majeur pour combattre une situation comme celle de la pandémie. Puis évidemment, le camp, ça l'offre cette possibilité-là, malgré que ça présente beaucoup de problèmes et qu'évidemment, faudrait peut-être penser à d'autres formes d'organisation pour les populations réfugiées. Mais encore à ce jour, ça semble être la solution qui est la plus répandue.
Les solutions de camp sont généralement des enjeux très opérationnels, mais ne sont pas c'est pas décisionnel. La décision a été prise souvent, évidemment, bien à l'extérieur du contexte du conflit. Puis le camp de réfugiés s'avère comme étant le moindre mal, disons-le simplement comme ça. Et malheureusement, donc, le politique n'est pas toujours proactif à ce niveau-là. Puis je me permets aussi de le mentionner parce que ça vient tout juste de sortir. Donc, le Canada vient d'échouer là, dans son accès à un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, dans un contexte comme celui-là, ben, il ne faudra pas compter malheureusement sur le Canada justement pour tenter de trouver des solutions aux populations de réfugiés ou à tout le moins d'essayer de veiller à ce qu'il y ait moins de conflits, disons-le comme ça, sans être trop naïf, parce que c'est un peu ça aussi le rôle du Conseil de sécurité, d'anticiper peut-être certaines situations de conflits dans le monde ou en tout cas de tout le moins de les pointer du doigt. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à nous suivre pour de prochains balados. Merci beaucoup, Olivier.
Ça fait plaisir. Merci, François, de m'avoir invité.